Bon, j'ai décidé de ne pas séparer les trois récits parce que je pense que ça ne forme qu'une seule parabole. Mais on en parlera après, on va quand même commencer par détailler chacun des récits. Le premier récit, c'est donc celui de la brebis perdue. Bon, je passe hein, les trois premiers versets de controverse. Qui rappelle que les publicains et les pécheurs viennent écouter Jésus et les pharisiens et les scribes récriminent contre lui. Mais Jésus, lui, dit cette parabole et ça commence au verset 4 et jusqu'au verset 7, c'est une brebis qui est perdue. Et Luc insiste dans ce récit sur un contraste. Il y a une brebis, une seule, qui est perdue et il y en a 99 qui sont encore dans le troupeau. Et je pense que on s'est tous posé quand même la question, comme l'auditoire de Jésus se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'abandonner les 99 au risque qu'elles partent toutes chacune de leur côté pour aller en chercher une seule? Ben d'après Jésus, la question ne se pose pas. Oui, il faut aller chercher la brebis qui est perdue. Il faut tout quitter pour elle. Pourquoi? Parce que la brebis, si elle est perdue, ça veut dire qu'elle est aussi isolée, elle est abandonnée à son propre sort et donc elle risque de ne pas pouvoir survivre. C'est donc une question de vie ou de mort. Et comme le pasteur a pour rôle de prendre soin de son troupeau, il a pour mission de sauver la brebis. Et on voit bien que le verset 6 laisse à penser qu'il ne s'agit pas simplement d'une brebis, vu la joie qui résulte des retrouvailles. Et donc on comprend bien, puisque c'est une parabole, et qu'on connaît quand même suffisamment l'Écriture, que le pasteur, c'est l'une des figures que l'on attribue en général à Dieu. Et le Christ lui-même se place comme pasteur. On avait eu, il n'y a pas très longtemps, Jésus qui disait petit troupeau à ceux qui l'écoutaient. Dans la deuxième, je fais juste un petit état des lieux des trois paraboles. Dans la deuxième, la pièce perdue, versets 8 à 10. On a un récit qui est assez similaire au premier. On a une femme, cette fois-ci, non pas un pasteur, qui concentre l'ensemble de son activité, pas directement pour elle-même, mais toute son activité est tournée vers autre chose. Cette fois, ce n'est pas une brebis, c'est une pièce. Elle a égaré une pièce, elle l'a perdue. Et dans la même dynamique, alors cette fois-ci, on se pose peut-être moins la question de savoir si on abandonnerait les 9 pièces ou les 10, je ne sais plus c'est combien, pour aller chercher. Il y a moins de risques que les pièces s'échappent du porte-monnaie. Mais en tout cas, on voit comment est-ce qu'elle prend soin de la chercher, elle fait la lumière, elle fait le ménage, elle cherche partout. Mais surtout, ce qui nous fait comprendre qu'il y a plus qu'une pièce qui est cherchée, c'est la joie qu'elle a à retrouver sa pièce. Parce que je pense que vous êtes tous aussi arrivés de faire tomber une pièce ou de chercher quelque chose qu'on avait perdu. Moi, souvent mes clés, par exemple. J'invite jamais les voisins à faire la fête quand j'ai retrouvé mes clés, quoi. Oui, ça arrive trop souvent. Donc là, on a quand même voilà, deux situations similaires. Et puis, par contre, la troisième partie du récit, qui d'ailleurs est beaucoup plus longue, beaucoup plus développée, qu'on appelle le fils prodigue, mais si on veut aller dans la suite, après la brebis perdue et la pièce perdue, c'est le fils perdu, et d'ailleurs c'est les mots qu'on retrouve dans la bouche du père, plus que le fils prodigue. Cette fois-ci, c'est plus développé, donc on va s'y pencher un petit peu plus. Parce qu'on comprend bien que si ce récit est plus développé, c'est que les deux autres, ils ouvrent à ce troisième récit. Cette fois, ce n'est ni un animal, ni un objet de quelque valeur qui soit qui est perdu. C'est un fils, donc c'est-à-dire que c'est la chair de la chair, quoi. Et ce fils, c'est le fils cadet. Donc un fils cadet qui est d'abord présenté sous un angle bien particulier, puisque ce qu'il désire, c'est entrer en possession de sa part d'héritage. Et on avait parlé de l'héritage la dernière fois, rappelez-vous. Il y avait déjà quelqu'un dans la foule qui interpellait Jésus en lui disant « Dis à mon frère de partager l'héritage. » Et on avait rappelé que bah, l'héritage, il est partagé uniquement entre les fils et l'aîné reçoit une double part. Mais ici, il n'y a pas de querelle quant au contenu de l'héritage. On ne sait même pas la motivation en soi du cadet. La seule chose que l'on sait, donc c'est la seule chose qui est importante, c'est que le cadet demande son héritage par avance. C'est comme s'il tuait donc le père et il part avec. Et de fait, on apprend par la suite qu'il n'a jamais envoyé de nouvelles au père. Donc vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a tué le père. Le cadet quitte la maison familiale. Et suite à ça, comme il a pris la route, on comprend que à aucun moment le fils cadet n'a voulu ni gérer sa part d'héritage, ni préparer son avenir, investir dans quelque chose avec cet héritage-là. C'est écrit. Il a voulu jouir simplement d'une vie de désordre. Sauf que arrive la fameuse famine. Donc ça, il ne l'avait pas prévu. Et la famine, elle s'abat sur le pays et elle va rappeler au cadet finalement, toute la vanité, toute la futilité de la vie qu'il a entreprise depuis qu'il a quitté le foyer familial. Et à nouveau, dans son récit, tout comme Jésus ne s'est pas attardé sur les motivations du cadet pour quitter le domicile familial, Jésus ne s'attarde pas ici non plus sur la responsabilité du cadet sur la situation dans laquelle il se trouve. Voilà. Là, il n'a plus qu'à survivre. Mais ce sur quoi Jésus va insister, c'est les cochons. On parle d'une vie de désordre, bon, très bien, mais on n'insiste pas plus que ça dessus. En revanche, Jésus insiste sur la question des cochons. Il se retrouve poursuivi à garder des cochons, et pire que simplement garder des cochons, on avait déjà parlé de la question de l'impureté qui pouvait aller jusqu'à l'apostasie, il les envie. C'est ça qui est le pire en fait. Déjà, c'est dramatique de se retrouver à garder des cochons, mais en plus, il a envie des cochons parce que les cochons, eux, ils ont à manger. Et donc, on voit à ce moment-là la chute de l'homme. Et cette chute du fils cadet l'oblige à faire une introspection. Qu'est-ce qui lui reste? Rien. Qu'est-ce qu'il ressent? La faim. Est-ce qu'il y a une solution? Oui. Retourner chez le père. Et ce qui fait que quand on regarde le récit comme ça, en enlevant justement le côté, tout ce qu'on a beaucoup entendu sur le fils prodigue et les lectures que l'on fait par rapport à notre propre idée de la miséricorde, à ce moment du récit, ce qui motive le fils cadet, c'est quand même la faim, quoi. Bien sûr, il y a cette idée où il dit, je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Très bien. Mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'il a faim. Donc l'ultime chance qu'il a de ne pas périr, c'est ce retour vers le Père. Donc il envisage d'avouer son péché. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, ce qui est intéressant. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils s'il avait tué le Père. Il n'a plus à être appelé fils. Donc il retourne quand même dans une idée de filiation, même s'il reconnaît que cette filiation, elle a été blessée. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et effectivement, cette filiation qui est blessée fait qu'il veut bien vivre auprès du père, mais il ne veut plus être connu en tant que fils. Donc on peut quand même entendre par là une forme de contrition. Et là, ce qui se révèle chez le cadet à partir de ce moment-là, c'est quand même l'audace. Parce que c'est-à-dire qu'il est prêt à retourner chez son père alors qu'il ne lui a pas donné de nouvelles, alors que dans son esprit il l'avait déjà tué, alors qu'il a dilapidé l'héritage. Malgré tout ça, il a l'audace de se dire, ok, j'y retourne. Donc le cadet s'avance vers le père, et malgré tout le monologue intérieur qu'il souhaite rendre public auprès de son père, ce n'est pas du tout ses paroles, ce n'est pas du tout le monologue intérieur qu'il a l'intention d'exprimer qui va motiver l'action du père. C'est le fait que le père soit saisi aux entrailles. C'est ça en fait le déclic. C'est ça qui change tout. Et être saisi aux entrailles, on l'avait déjà entendu cette expression, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est celui qui est saisi aux entrailles. Et là, c'est exactement la même chose pour le père. Il est saisi aux entrailles. Donc il n'a même pas besoin d'entendre de discours. Avant même que le cadet puisse terminer sa phrase, dire qu'il veut être considéré. Il commence sa phrase, mais il n'a même pas le temps de dire je veux être considéré comme un simple ouvrier. Le père l'a déjà restauré dans sa dignité de fils. Ça y est, c'est immédiat. Et à nouveau, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le texte, donc on peut se poser la question. On a tous en tête l'image du père qui attend, enfin je pense, l'image du père qui attend à la porte. Et donc il peut voir son fils arriver de loin. Mais en fait, c'est pas écrit comme ça. Nous, on l'imagine comme ça. Mais le saisi aux entrailles, c'est peut-être aussi la question d'une restauration du lien de filiation, puisque le fils vient des entrailles. Et là, on a beaucoup parlé du cadet, mais il y a l'aîné qui intervient. Et l'aîné, il va réagir de la même manière que le fils cadet. Il veut une rétribution. En fait, la première chose qu'il va dire, c'est ça. Il faut que la rétribution soit proportionnée. Donc lui, il est resté fidèle, il n'a pas droit au veau gras. Le cadet qui a été infidèle, il reçoit les honneurs. Donc c'est injuste. Et ils sont tous les deux dans le même esprit. Le cadet, il voulait aussi quelque chose de proportionné. Bah, je t'ai quitté, j'ai dilapidé, etc. Je ne veux plus être appelé ton fils, je veux être un ouvrier. Il y avait une forme de rétribution. Cette rétribution, pour le père, elle n'existe pas. Tu es de retour, mon fils perdu est sauvé, donc je fais la fête. Et l'aîné, lui, il dit, bah non, moi j'ai toujours été là, on devrait faire la fête. Bah en fait, non, il n'y a pas cette rétribution-là non plus. Donc, ça veut bien dire que la logique du père n'est pas une logique qui est du commun des mortels. Et c'est d'ailleurs ce personnage-là qui est le plus important du récit. C'est le personnage du père. Parce que justement, il ne se laisse pas arrêter par l'attribution immédiate des bonnes et des mauvaises actions. C'est ça qui en fait vient frapper l'esprit, avec le fait qu'il soit saisi aux entrailles. La seule chose que lui, il voit, c'est le retour du fils perdu. Et tout l'excès des dons que le père fait à son fils cadet, ça vient témoigner de cette joie toute paternelle qu'il désire partager avec tous. Quand il tue le veau gras, évidemment, c'est pas que pour son fils. Il y a un festin, il y a une fête. Il le dit d'ailleurs, verset 32. Il fallait festoyer et se réjouir. Donc là où les deux fils, l'aîné comme le cadet, font d'eux-mêmes leur propre référence, le père, lui, y voit autrement. Il voit chacun, que ce soit l'aîné ou le cadet, pour ce qu'il est, mais pas que dans les apparences, avant tout dans la question de la filiation. Il ne voit pas en premier lieu le bénéfice pour lui d'avoir son aîné auprès de lui tout le temps. Il voit d'abord sa filiation. Il ne voit pas avant tout le mal qu'a pu lui faire. Ah, merci. Il voit pas avant tout le mal qu'a pu lui faire le fils cadet. Il voit avant tout la filiation. Et c'est ça qui démarque le père. Donc le père, c'est celui qui n'impose pas sa présence, mais c'est celui vers qui tout le monde finit en réalité par tourner son regard. Une espèce de paradoxe. Ben, Irénée était partie avec mes clés, ouais.
C'était perdu, on a fait un festin.
Ouais. J'ai même pas eu besoin de les chercher, c'est ça qui est formidable. Et maintenant, ce que je voudrais faire avec vous, c'est un petit exercice qu'on n'a pas encore fait. Je ne sais pas si on le refera, mais c'est l'occasion d'en parler. Il y a différents sens de lecture à l'écriture sainte. Donc souvent, on parle des quatre sens de l'écriture. Donc le premier sens, c'est le sens littéral. Donc c'est facile, c'est ce qui est écrit à la lettre. Le deuxième sens, c'est le sens allégorique. Donc le sens allégorique, c'est ce que ce verset vient nous dire de la foi. Donc une question un peu de dogmatique, si on veut. Ensuite, il y a un troisième sens qu'on appelle le sens tropologique. Et donc le sens tropologique, c'est un sens, on pourrait dire, moral. Qu'est-ce que ça me dit de ce que je dois faire dans ma vie de disciple? Et il existe donc un quatrième sens, qui est le sens anagogique. Qu'est-ce que ce verset vient me dire de l'eschatologie, donc de ma fin dernière? Anagogique. 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 Donc, ça, ce qu'on appelle les quatre sens de l'écriture, ça existe depuis l'exégèse médiévale. Ça a été rappelé par le père de Lubac dans Exégèse médiévale, justement. Voilà. Mais il existe en fait un autre sens qu'on appelle le sens plénier. qu'utilisent les exégètes. Concrètement, le sens plénier, c'est de dire que Dieu, à l'intérieur même de l'Écriture sainte, donc révèle la vérité. Mais cette vérité, elle va être comprise au fil du temps des hommes. Donc ça, c'est une forme de pédagogie. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, la compréhension que l'homme aura de l'Écriture lui permettra de lire d'un œil nouveau cette même Écriture. Et c'est ce qu'on va faire avec la question de la Trinité. Pour comprendre le concept de Trinité, il a fallu lire l'Écriture sainte. Et de cette Écriture sainte naît effectivement la compréhension de la Trinité, même si ça reste un mystère. Mais on peut faire un dogme de la Trinité. Et ensuite, avec le dogme de la Trinité qui est issu de l'Écriture sainte, on va pouvoir relire l'Écriture sainte au prisme de ce dogme de la Trinité. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens plénier. Et on voit comment est-ce que ça va éclairer notre lecture. Et je me suis dit que c'était intéressant de le faire ici, parce qu'on connaît très bien la parabole du fils prodigue, mais souvent on squeeze les deux autres. Or, si on prend les trois paraboles ensemble, on peut les lire dans une dynamique trinitaire. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et c'est pour ça qu'on a lu le chapitre 15 dans son intégralité, sans couper. On a vu déjà qu'il y avait eu une scansion. Donc c'est ça qui vient un peu nous éclairer. On a vu qu'il y a trois situations, et ces trois situations sont reliées parce qu'elles sont scandées par la même idée. Quelque chose est perdu et il est retrouvé. Et lorsqu'il est retrouvé, ça crée une joie. Verset 6, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Verset 9, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Verset 32, « Il fallait fessoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Donc on voit comment est-ce que cette parabole, en trois récits, effectivement, est bien scandée. Donc, on a un indice. Maintenant, on va regarder la première partie de la parabole. Donc le premier récit, celui de la brebis perdue. Cette partie, elle va plutôt parler de la mission du Fils, de son incarnation, qui est une incarnation rédemptrice. On en avait parlé notamment avec le bon samaritain. L'interprétation, pour le coup, la christologique du récit, elle est assez facile parce qu'elle repose sur l'image qu'on a déjà évoquée, qui est traditionnelle du pasteur. Et Jésus lui-même se définit comme le pasteur, on l'a dit. Donc là-dessus, c'est assez facile. Et donc on voit que le Fils a pour mission de s'incarner en notre humanité, de devenir un homme parmi les hommes, pour nous ramener sur le chemin du salut. On l'a vu déjà avec le bon samaritain, on le revoit ici avec Jésus qui va chercher la brebis perdue. C'est donc Jésus qui va chercher la brebis perdue. Il la prend sur ses épaules parce que sa mission, c'est de ramener toutes les brebis égarées au sein même du troupeau. Et ce qui nous fait penser encore plus qu'il est question de la mission du Fils, c'est un détail, mais c'est un détail qui est important. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules. Et il est tout heureux. Eh bien, c'est la même chose pour le Christ. Lorsque le Christ est élevé, en fait, il est là pour nous élever avec lui. Sa mission, c'est d'élever les hommes dans la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est nous qui portons effectivement sur ses épaules. C'est lui qui nous permet l'accès à la vie éternelle. Maintenant, deuxième partie de la parabole, la pièce perdue. Est-ce que la femme représente le Père ou l'Esprit Saint ? Bah oui, c'est l'Esprit Saint. Et cette deuxième partie, elle a donc un lien, un parallèle évident, on l'a déjà dit, avec la première partie, et on voit qu'elle est charnière parce qu'elle a aussi un lien profond avec la troisième partie, notamment dans ce qui est de l'ordre de l'exagération du récit, qu'on avait déjà un petit peu souligné, mais pour retrouver la pièce, il y a une insistance, quoi. Elle n'est pas juste en train de la chercher. Elle allume la lampe pour faire la lumière, elle fait le ménage dans toute la maison, pas à l'endroit où elle était, dans toute la maison, et ensuite elle cherche, et une fois qu'elle a trouvé, elle fait la fête avec les voisins. Donc on voit qu'il y a une forme d'exagération. Et c'est cette même exagération, ou du moins cette folie apparente, que l'on retrouve dans la mesure, des mesures du père. Son fils, une fois qu'il l'a retrouvé, il tue le veau gras, il met l'anneau, c'est la toge de fête, il y a tout, quoi, il donne tout. Donc, le personnage de la Trinité qui est ici représenté par la femme, c'est celui qui va pouvoir aussi faire ce lien entre les deux autres personnages. Donc la femme qui fait le lien entre le pasteur et le père du fils prodigue, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est issu de l'aspiration, c'est-à-dire de l'amour qui existe entre le père et le fils. Ça, c'est du point de vue justement du raisonnement théologique. Et quand on le lit ici avec le récit, on voit en fait qu'au milieu du récit se trouve la femme, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui fait le lien entre les deux. Quelle est la mission de l'Esprit Saint? La mission de l'Esprit Saint, c'est d'éclairer, de purifier l'âme et de reconstituer en l'homme l'image de Dieu. Voilà la définition de la mission. Ben, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. La femme, elle commence par allumer une lampe. Donc, elle est en train d'éclairer l'âme. Ensuite, le but, c'est de purifier l'âme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye l'intérieur de sa maison, comme on purifie l'intérieur de son âme. Et ensuite, reconstituer en nous l'image de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche la pièce, comme on est invité, nous aussi, effectivement, pour reconstituer en nous l'image de Dieu, eh bien rechercher Dieu lui-même. Il faut qu'on puisse connaître son image. Et maintenant, la troisième partie de la parabole, le fils perdu, elle met en avant, il n'en reste qu'un, et ça semble effectivement assez logique, la figure du père. Un père qui est prompt à donner à l'homme tout ce dont il a besoin et à l'accueillir dans la miséricorde lorsque l'homme revient vers lui, le cœur a été égaré à un moment donné, mais il revient vers lui contrit. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en mettant le père à la fin, on a l'impression que ce n'est pas un ordre logique, parce que de fait, si on regarde d'un point de vue dogmatique, souvent on parle du père qui engendre le fils se reçoit du père, et ensuite il y a l'aspiration de l'Esprit Saint. Très bien. Là, on a commencé par le fils, ensuite l'esprit, on finit par le père. Sauf que l'idée, bah maintenant qu'on a compris quelle était la mission du fils, quelle est la mission de l'Esprit Saint, ça nous permet de relier tout ça au père. Parce que la rédemption qu'accorde le père, eh bien c'est le fruit, du moins la miséricorde qu'accorde le père, c'est le fruit de la rédemption qui est opéré par le Fils. Et ce Fils, il a été envoyé en mission par qui? Par le Père. Et la mission du Père, c'est d'être donc à l'origine et à la fin de toute vie humaine. Ce qui signifie que si on lit le chapitre 15 dans son sens plénier, on comprend que le Fils intervient en premier afin de réaliser le salut, un salut qui est intrinsèquement lié à la filiation divine, parce qu'il est lui-même fils, et c'est dans cette filiation divine qu'il nous fait entrer. Et on se souvient, on en a parlé de la prière du Notre Père, où justement, à la suite du Christ, on entrait dans cette filiation. Mais pour entrer dans cette filiation divine, il faut quand même accepter que Jésus est le Messie, donc accepter la rédemption, et cette rédemption, il la porte par le sacrifice sur la croix. L'Esprit Saint, quant à lui, c'est celui qui prend le relais dans notre maison, c'est-à-dire dans notre âme, pour nous aider à vivre cette filiation. Donc on a le Christ qui établit ou qui nous révèle la filiation, l'Esprit Saint qui l'entretient, donc ça y est, hop, on voit la suite logique entre les deux premières paraboles. Et puis, on arrive à la troisième parabole, avec le Père, une fois qu'on est établi dans la relation filiale, une fois qu'on en vit grâce au Christ, eh bien on est prêt désormais intérieurement à accueillir la miséricorde de Dieu qui est quelque chose qui nous dépasse complètement. Enfin, la miséricorde du Père. Et donc si on prend maintenant un peu de recul encore, on voit que le Père créateur de toute vie est aussi, effectivement, même si on le place en dernier cette fois-ci en disant le Fils et l'Esprit nous préparent à recevoir la miséricorde du Père et donc à parvenir à notre fin, qui est la vie en Dieu, Le père, hop, on peut le replacer maintenant au début. Parce qu'il est le père créateur et donc c'est lui qui envoie les autres en mission. C'est lui qui envoie le fils pour créer et révéler cette filiation divine. C'est lui qui envoie l'Esprit Saint pour nous permettre de la vivre pleinement dans notre vie chrétienne. Donc le Père est véritablement le créateur et celui vers qui tend toute l'existence. Et de fait, à la fin de la parabole du Fils prodigue, même si le Père est le personnage central, il était particulièrement effacé, on le voit au début, on le voit à la fin, mais tous les regards se tournent vers lui, que ce soit le fils aîné ou le fils cadet. Donc ça change un peu de ce qu'on se fait d'habitude. Mais je me suis dit que c'était assez intéressant parce que comme on entend beaucoup de choses toujours sur le fils prodigue et pas sur les autres, ça permet de mettre un peu tout en relation, quoi. Ça donne un éclairage nouveau. Ça permet peut-être de parler de la Trinité, pourquoi pas.